affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Chacun peut s'en rendre compte, nous vivons dans un monde saturé d'enjeux scientifiques et technologiques majeurs. Pour ne prendre que quelques exemples, les questions environnementales, climatiques ou énergétiques, comme l'essor des technologies numériques, nécessitent pour être appréhendées correctement un minimum de connaissances scientifiques et technologiques. C'est vrai bien sûr pour les adultes d'aujourd'hui, mais ça l'est probablement encore plus pour les prochaines générations. C'est la raison pour laquelle l'enseignement des sciences et technologies à l'école primaire est aujourd'hui, comme le proclame un récent rapport réalisé conjointement par l'Académie des sciences et par l'Académie des technologies, un enjeu décisif pour l'avenir des futurs citoyens. Vous l'avez compris, c'est à ce rapport que sera consacrée notre émission de ce jour, et nous allons nous plonger dans celui-ci en compagnie de deux de ses auteurs, d'une part Didier Roux, membre de l'Académie des sciences et aussi de l'Académie des technologies, d'autre part Alain Cadix, ancien DRH de Dassault Aviation et membre de l'Académie des technologies. Messieurs, bonjour.
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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous tout d'abord nous éclairer sur la genèse de ce rapport, sur les motifs qui ont présidé à sa réalisation et qui ont conduit vos académies à se saisir de ce sujet ?
Alors, je peux commencer parce que la genèse remonte il y a un certain nombre d'années, lorsque Charles Pack a eu son prix Nobel de physique. Il a essayé, dans une longue activité, de réintroduire l'enseignement des sciences en école primaire, anciennement des sciences qui avaient eu une forte tendance à disparaître. Ce que l'on appelait la leçon de choses de nos parents ou de nos grands-parents, petit à petit s'était évanoui dans l'enseignement de l'école primaire. Et il a créé donc ce qui s'est appelé la main à la pâte, qui a donné une fondation assez récemment. Et cette fondation, qui avait entre autres comme origine l'Académie des sciences avec Yves Quéré et Pierre Léna, en plus de Charpa, qui s'y sont énormément investis. Et récemment, l'Académie des technologies, quand je dis récemment, ça fait maintenant 2-3 ans, l'Académie des technologies est venue rejoindre cet effort autour de cette fondation La Main à la Pâte, qui a comme vocation d'introduire et de promouvoir les sciences en école primaire et au collège. Voilà. Alors, l'origine, pour aller maintenant droit au but, c'est simplement qu'au niveau d'un conseil scientifique, où sont présents à la fois l'Académie des technologies et l'Académie des sciences, d'un conseil scientifique de cette fondation La Main à la Pâte, nous était remonté à travers le terrain le fait qu'il était de plus en plus difficile, pour un certain nombre de raisons, d'enseigner les sciences à l'école primaire. Et ce que le conseil scientifique donc a fait comme constat, Alain Cadix et quelques autres académiciens présents à ce conseil scientifique ont décidé de saisir, entre guillemets, leurs deux académies pour réfléchir indépendamment de la Fondation La Main à la Pâte à ce sujet et faire une enquête, en quelque sorte, d'un état des lieux qui a donné récemment ce rapport qui vient d'être publié le mercredi 25 novembre.
Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire…
Monsieur Cadix, oui.
Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pris la parole sans que vous me la donniez. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Didier. Ça correspond, au sein de l'Académie des technologies, à une préoccupation qui est celle de la place des technologies dans l'ensemble de l'enseignement. Alors, ça part effectivement des petites classes de l'école primaire, mais ça… cours tout au long avec la technologie au collège dont le statut et la qualité de l'enseignement nous préoccupent, et puis ensuite derrière les autres enseignements du lycée général et technologie, sciences de l'ingénieur ou STI2D en voie technologique. C'est cet ensemble-là qui nous préoccupe, dont l'évolution nous préoccupe, et les racines se trouvent évidemment dans l'école primaire. Donc c'est assez naturellement que nous sommes associés à l'Académie des sciences pour traiter de cette question.
Alors, je vois que le rapport a été fait selon la méthode scientifique. D'abord, une hypothèse, enfin, un état des lieux pour vérifier la véracité de cette hypothèse. Et ça donne donc lieu à un état des lieux, précisément. Est-ce que vous pouvez nous le développer, nous en faire le tableau?
Bon, alors je vais commencer de nouveau, Alain va compléter. Alors, d'abord, la première des choses, c'est que cette inquiétude qui nous était parvenue à travers des acteurs de terrain, donc des enseignants essentiellement, professeurs des écoles, à travers les centres pilotes, entre autres, et les maisons pour la science, qui sont des organisations mises en place par la Fondation La Main à la Pâte. Lorsque nous avons fait ce constat, on a commencé par auditionner effectivement des acteurs à différents niveaux. Et effectivement, le résultat qui nous est parvenu, c'est qu'effectivement, c'était compliqué, c'était difficile, qu'il y avait une sorte, on va le dire comme ça, de régression de la possibilité d'enseigner les sciences en école primaire par rapport au mouvement positif qui s'était mis en place il y a maintenant une vingtaine d'années. Et on a analysé effectivement un certain nombre de facteurs. Alors, je vais en donner deux ou trois, mais il y en a un certain nombre. Donc, je vais donner ceux qui me paraissent pour moi les plus importants, mais ils sont tous importants et Alain complétera. Alors, parmi les facteurs, il y a en sorte deux catégories de facteurs. Une catégorie qui est autour de la formation, c'est-à-dire, on va le reprendre en détail puisque c'est le cœur un gros parti, si ce n'est le cœur du rapport, que ce soit la formation initiale, la formation continuée qui correspond en fait à l'accompagnement des professeurs les premières années où ils enseignent, et puis la formation continue tout au long de la carrière du professeur des écoles. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de la formation, on le détaillera plus tard. Et puis l'autre raison, c'est la focalisation trop importante, et ça il faudra qu'on puisse avoir du temps pour le détailler, mais je ne rentrerai pas dans l'explication maintenant, la focalisation trop importante autour de ce qui est appelé par le ministère le lire, écrire, compter, ou les valeurs fondamentales, non pas qu'elles ne soient pas fondamentales et qu'elles ne soient pas importantes, mais le fait de le mettre en avant de cette façon-là a des effets pervers dans l'ensemble des formations d'autres domaines et qui se voit particulièrement en sciences. Voilà. Donc il y a un problème autour de la formation, il y a aussi un problème au niveau du positionnement du ministère autour de cette formation des sciences ou ces sujets. Voilà. Sachant que je rajoute juste une chose et Alain complétera, qui est que les programmes eux-mêmes ont fait énormément de progrès. Il n'y a pas que des choses négatives dans le rapport, il y a aussi des choses positives, et nous reconnaissons que les programmes de l'école primaire ont fait d'immenses progrès depuis 20 ans, et le problème n'est pas tant le programme lui-même que la façon dont il est appliqué. Je laisse Alain...
Oui, c'est là que si je ne vous coupe pas la parole, hein, Monsieur Cadix, mais si je comprends bien, sur le papier, les objectifs affichés sont positifs et tout irait bien, mais dès lors que l'on rentre dans la pratique de l'enseignement tel qu'il se fait réellement, les problèmes apparaissent.
Oui, c'est un peu ça. Alors, on peut comprendre, à certains égards, la priorité donnée au lire, écrire, compter. Enfin, c'est plus que compter. C'est raisonner, c'est calculer, c'est comparer, etc. Parce que nous avons, en France, un retard assez considérable en termes de niveau, en niveau de français et de mathématiques, et ceci est bien connu à travers différents classements, etc. Et donc, on peut comprendre que ces priorités soient données. Ce qui est, en revanche, qui nous interpelle et qui est peut-être plus contestable, c'est que, alors que c'est le même enseignant qui a en face de lui, qui enseigne l'ensemble des disciplines, cloisonne les choses et qu'il soit pas fait de passerelle, de lien entre l'enseignement des mathématiques et l'enseignement des sciences et de la technologie, alors qu'il y a des passerelles assez naturelles. Et puis également des passerelles entre le français et les sciences. Et du reste, et Didier Roux en a parlé, les programmes, en effet, ouvrent et tendent ces perches, si je puis dire. C'est ce qu'on appelle les croisements entre enseignements dans les programmes, et explicitement, on montre quel lien peut être fait entre les mathématiques et les sciences, quel lien peut être fait entre le français, la lecture de textes à caractère scientifique ou technologique, ou même la production d'écrits sur l'observation de certains nombres de phénomènes ou de naturels autour de la classe, tout ceci est possible, tout ceci est envisageable. Mais dans la réalité, il se trouve que beaucoup d'enseignants se trouvent en difficulté à faire ce pas parce que pour différentes raisons, en particulier pour des questions de formation continue, mais aussi de formation initiale, et on y reviendra.
Oui, parce que peut-être faut-il préciser que les problèmes de niveau constatés en français et mathématiques, c'est une chose, mais on les constate également dans les matières de sciences et de technologies.
Bien sûr. Mais ce que dit Alain, qui est à mon avis très très important, c'est que l'école primaire est un moment très privilégié dans la formation et l'éducation des enfants pour des tas de raisons. Mais une des raisons, c'est que d'un côté, on a des enfants qui sont d'une extrême curiosité et ouverts sur l'ensemble du monde et des disciplines et de ce que l'on appelle des disciplines ou des domaines d'intérêt. Ils sont curieux de tout. Et on peut déplorer qu'avec le temps, cette curiosité disparaisse un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à l'âge de 12-14 ans, on a affaire à des enfants d'une très grande curiosité. Et le deuxième point, c'est qu'à l'école primaire, vous avez des enseignants qui sont multidisciplinaires. C'est le même professeur des écoles qui enseigne l'ensemble des connaissances. Et donc, ne pas faire ce que les programmes disent, ce que Alain a très bien expliqué, ne pas s'appuyer ou utiliser ce levier fantastique qu'est la multidisciplinarité pour s'ouvrir sur le monde dans tous ses aspects, les aspects de, bien évidemment, langage, les aspects d'histoire et de géographie, les aspects de science, les aspects de technologie, les aspects de mathématiques, si tout ça ne fait pas un tout dans l'enseignement, alors que pour l'enfant, ça fait un tout. Donc, rediviser tout ça en disciplines est un contresens profond au niveau de l'école primaire. Et effectivement, si nous, forcément, faisons un plaidoyer pour mathématiques, sciences et technologies, en fait, tout ça, c'est un tout avec le français et l'ensemble des autres domaines disciplinaires. Donc, c'est un peu du gâchis de ne pas mettre toutes les chances du côté des enfants de s'ouvrir au monde par ces multiples aspects en utilisant ce côté multidisciplinaire qu'offre une fois de plus l'éducation, mais aussi les programmes. Voilà. Donc, j'insiste énormément là-dessus parce que c'est l'un des aspects que nous déplorons, c'est de retrouver finalement dans l'enseignement des sciences une sorte de, dans l'enseignement en général, une sorte de redivision disciplinaire comme les enfants auront l'occasion de le voir lorsqu'ils atteindront le collège, puis ensuite encore plus le lycée.
Et alors, je voulais indiquer que ceci est possible et que ceci se fait, malheureusement, peut-être pas partout. Et c'est un peu l'objet du rapport. J'ai une petite anecdote pour illustrer le propos. Je me suis rendu il y a quelques mois, quand on pouvait encore circuler, en Seine-Maritime. En Seine-Maritime, vous avez une douzaine de fleuves, de petits fleuves, qui, alors il y a la Seine bien entendu, mais il y a aussi une douzaine de petits fleuves, et les écoles primaires qui se trouvent à proximité de ces fleuves se sont réparties entre elles des morceaux de fleuves. Et les élèves des écoles vont à différentes saisons sur le bord des fleuves, mesurer, observer, dessiner, faire des comptes rendus de ces visites, donc ils pratiquent le français, calculer le débit, etc. Donc on voit bien que, et ils sont pour cela, et on en parlera peut-être plus tard, mais ils sont pour cela aidés par une association qui fournit des éléments, des experts, etc., etc. Donc on voit bien que ceci est possible et que dans certaines circonstances, cela se fait. Et on voit vraiment, et j'ai pu l'observer, on voit vraiment les yeux qui brillent. C'est-à-dire que les enfants sont passionnés de pouvoir ainsi observer, décrire, rapporter, calculer, mesurer. Et c'est un tout. on ne dit pas on fait des sciences, puis on fait du français, puis on calcule, on fait des maths. Non, c'est un tout. Le fleuve est pris, le morceau de fleuve, le segment de fleuve dont ils sont en charge. En plus, il y a ce côté un peu de responsabilité par rapport à la question de biodiversité, etc. Ce segment de fleuve, c'est leur affaire dans toutes ses dimensions. C'est un exemple, c'est une anecdote. On n'a pas tous, au bord d'un fleuve de Seine-Maritime, mais il y a des environnements à toutes les écoles.
Alors là, c'est une initiative donc spécifique. Quels sont alors au niveau national les freins pour que ce type d'expérience et d'approche se généralise, alors, se multiplie?
Alors d'abord, je crois qu'il faut évidemment aborder la problématique de la formation. Comme on l'a dit dans l'introduction, nous avons considéré dans ce rapport l'ensemble des formations, la formation initiale, c'est-à-dire celle qui donne lieu à un diplôme et à un professeur des écoles qui ensuite va devenir un professionnel, puis ensuite la formation continuée qui est en fait l'accompagnement des deux ou trois premières années de l'enseignement qui sont très importantes parce que ça met en place les méthodes pédagogiques de l'enseignant, et puis la formation continue, c'est-à-dire la formation tout au long de sa carrière. Bien. Alors, je vais parler de la formation initiale, puis après Alain pourra parler peut-être des autres types de formation. Mais dans la formation initiale, ce que nous avons vu, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour être professeur des écoles, vous avez besoin de passer un concours pour entrer dans ce qu'on appelle l'INSPE, qui est le concours des professeurs des écoles, mais qui vous permet de rentrer à une école de formation qui s'appelle l'INSPE, qui se fait en un an. Et le niveau de ce concours, c'est la maîtrise de première année, un master de première année. Et en fait, il y a une très grande diversité de personnes qui se présentent, puisqu'il suffit d'avoir un master, ce qui est déjà pas mal, mais dans n'importe quelle discipline, pour entrer, après ce concours, dans la formation de professeur des écoles. Alors certes, il existe un master qui est master 1 de première année qui est général, mais la plupart des candidats sont des candidats qui ont fait des masters de droit, de psychologie, de français, de sciences, peu importe, y compris d'ailleurs le diplôme d'ingénieur, parce que le diplôme d'ingénieur donne l'équivalent du master. Donc tous ces gens-là peuvent se présenter au concours, être reçus, ce qui est très bien. Et ensuite, ils ont des disciplines, ils ont des connaissances de base universitaires, mais extrêmement différentes, et ils auront plus tard à enseigner l'ensemble des connaissances. Et la formation, je vais le résumer de façon un peu caricaturale, en un an qu'il leur est proposé, même s'il y a une pré-préparation d'un an aussi avant dans ce master général, qui est une fois de plus pas la majorité des candidats, ce master en un an qu'on leur demande, cette année à l'INSPE est une année de fou. C'est-à-dire on va leur demander la même année de préparer un master 2 avec un mémoire, d'avoir une classe à mi-temps mais en pleine responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas stagiaires avec un autre professeur, ils prennent la classe en pleine responsabilité. Dans certains, d'ailleurs, rectorats, on met dans certaines classes deux jeunes pour faire l'équivalent d'un temps plein de professeurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas avec un plus ancien qui peut les épauler, ils sont tous deux jeunes en face d'une classe à temps plein, et on leur demande aussi de suivre des cours qui sont censés les remettre à niveau. Donc vous voyez que cette année qui est censée les remettre à niveau, de préparer un mémoire de master et en plus d'enseigner en plein un mi-temps complet de professeur des écoles, c'est évidemment impossible de rattraper, entre guillemets, les faiblesses qu'ils pourraient avoir dans l'un ou l'autre des disciplines. Donc déjà, le gros problème, c'est qu'ils arrivent comme professeurs des écoles sans avoir été formés sur l'ensemble des matières qu'ils auront à enseigner. Et ça, évidemment, ils partent avec un boulet. Alors, ce n'est pas propre à la science. Hein. Si vous prenez, par exemple, un ingénieur, lui, il n'aura pas de problème avec les mathématiques et la technologie. Par contre, il pourrait avoir peut-être des problèmes avec les langues ou d'autres, ou le français ou d'autres aspects. Et au lieu de rattraper tout ça, le système, pour des raisons qui sont expliquées dans le rapport, a même tendance à amplifier, parce qu'ils veulent réussir le concours et que les points des concours ils sont des options. Et évidemment, les étudiants vont plutôt prendre des options là où ils sont forts que des options là où ils sont faibles. Donc, ils se renforcent dans leur force plutôt que de se renforcer dans leur faiblesse. Voilà. Alors ça, c'est évidemment ce système de formation. Et pour nous, pose un vrai problème parce que le professeur des écoles n'est pas suffisamment armé, une fois de plus, dans l'ensemble des disciplines et des connaissances qu'il a à faire passer auprès des enfants.
Il n'en reste pas moins que les sciences sont particulièrement défavorisées, si je ne me trompe pas, car je cite le rapport de mémoire, 14% des professeurs des écoles sont issus plutôt d'une formation universitaire initiale,
oui,
littéraire ou de sciences humaines.
Là, vous avez raison. Alors, je vais laisser Alain répondre à cette question parce qu'il connaît très très bien la situation.
Non, mais ils sont effectivement ceux qui sont originaires d'études scientifiques et techniques sont largement minoritaires. Et par conséquent, comme le programme est pratiquement identique pour tous, quelle que soit l'origine, il n'y a pas de véritable correction, ou c'est vraiment à la marge, il n'y a pas de véritable correction, en ce sens, il n'y a pas le complément sur les parties qui seraient moins maîtrisées par les étudiants qui rentrent, qui sont dans ce parcours. Donc ça, c'est un point tout à fait capital. Voilà, donc je crois qu'il faut beaucoup insister sur cette question de formation initiale. Il y a une réforme qui est en cours. Les concours vont se passer différemment après le M2. Il va y avoir il y a une évolution qui est en cours. Je pense que les auteurs de cette évolution, les promoteurs de cette évolution ont pris en compte un certain nombre de dysfonctionnements. Mais nous n'avons pas encore perçu en quoi pourrait être traitée cette complémentarité par rapport aux études antérieures. Par ailleurs, il y a un point très important, c'est celui de la didactique des disciplines. Et je crois que les INSPE ont un effort particulier à faire en matière d'enseignement de didactique des disciplines. Je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement interne des INSPE, mais en tous les cas, il y a sûrement de ce côté-là un effort à faire pour améliorer la formation des professeurs. Alors après,
excusez-moi, Monsieur Cadix, que vous développiez ce point, parce que si je ne me trompe pas, cela signifie notamment qu'un certain nombre de professeurs ont le sentiment qu'ils vont avoir des difficultés à traiter le programme de sciences et de technologies, alors qu'en réalité, ils ont le prérequis, c'est ça ? Il y aurait une sorte de réticence de leur part, un sentiment de ne pas être assez armé, alors qu'en réalité, ils le seraient.
C'est plutôt ceux qui n'ont pas fait d'études scientifiques qui se trouvent dans cette situation-là. Mais pour autant, même si vous avez fait des études scientifiques, vous avez fait des études d'ingénieur ou master de sciences, pour autant, vous n'avez pas nécessairement appris à enseigner et à ce niveau-là les disciplines. Vous maîtrisez évidemment les quatre opérations, vous maîtrisez des calculs de surface, vous maîtrisez des tas de choses. Mais apprendre pour ces jeunes-là, c'est un art et il faut le pratiquer. Et donc la didactique des disciplines pour des jeunes du CP au CM2, c'est un point extrêmement important et je pense que les INSPE devraient, que les INSPE devraient renforcer cette dimension-là de leurs activités. Donc ça, c'est un point. Alors, après, il y a évidemment la formation continue. Alors, là, c'est un énorme chantier. C'est un énorme chantier, puisque vous avez en France actuellement autour de 340 000 professeurs du premier degré. 340 000 professeurs du premier degré, c'est la population de la ville de Nice. Donc, il faudrait former toute la ville de Nice aux sciences et technologies. Alors, dans les 340 000, j'exagère un peu parce qu'il y a aussi les enseignants du préélémentaire, c'est-à-dire de la maternelle. Mais enfin, bon, on voit bien qu'on est autour de 200, 250 000. Donc, c'est un énorme chantier et toute la difficulté va être effectivement d'essayer de corriger et de compléter leur formation initiale pour les amener à mieux maîtriser les enseignements scientifiques et techniques. C'est un point très important. Pourquoi cela ? Didier l'a dit, mais je me permets d'insister. Le ministre, très justement, a dit qu'il fallait faire un effort dans tous les niveaux du socle, c'est-à-dire depuis le CP jusqu'à la classe de 3e, sur ce qui relève du développement durable, de la biodiversité, du changement climatique. Par ailleurs, il est demandé de faire un effort sur les usages et le développement du numérique. C'est pas simplement aller chercher des infos sur Wikipédia, c'est aussi faire un raisonnement logique qui permet d'aboutir à une esquisse d'algorithme, commencer à faire quelques lignes de programme. Mais tout ça, c'est très important et c'est considéré comme des priorités par le ministère, très justement. Mais alors, comment ça se décline? On voit bien la difficulté. Il faut qu'on arrive à traiter ces questions et qu'on passe à l'acte, si je puis dire, dès les petites classes, évidemment, avec une progression qui est raisonnée, raisonnable. Voilà. Donc, c'est tout à fait capital. Et évidemment, si on dit qu'il y a 250 000, il y a 340 000 au total enseignants de premier degré, il y a peut-être entre 250 et autour de 250 000 professeurs d'école primaire, on voit bien l'immensité du chantier. On voit bien l'immensité du chantier. Donc, il faut trouver des solutions pour traiter par la formation, mais il faut essayer, et le rapport en propose, de trouver des solutions par l'apport de complémentarité, de jouer avec des ressources territoriales, associations, étudiants, etc., on y reviendra, pour permettre de progresser. Car 250 000 ou 300 000, on voit bien l'immensité du chantier. Il faut donc former, oui, mais aussi trouver des éléments de réponse sur les territoires, en proximité des écoles.
Monsieur Roux,
alors, sur les recommandations, puisque une fois qu'on a fait un constat, il faut que nous avancions sur cet aspect-là, c'est-à-dire on va commencer par prendre la formation initiale. Bah, finalement, nos recommandations, elles sont simples et pleines de bon sens. C'est d'abord instituer une sorte de continuum de formation où, quand le futur professeur des écoles arrive au moment du concours, il a déjà quand même emmagasiné un bagage de connaissances qui correspond grosso modo à l'ensemble des domaines de connaissances qu'il aura enseignés. Donc ça veut dire avant tout établir des licences professionnelles qui sont des licences professionnelles qui se dirigent vers l'enseignement et qui enseignent l'ensemble des matières plutôt que de prendre des gens trop spécialisés. Et aller vers une filière qui amène logiquement au concours de professeurs des écoles à travers des formations qui commencent en licence et qui sont pluridisciplinaires et généralistes. Ça, c'est une des propositions. L'autre proposition que nous faisons, parce que nous acceptons aussi bien évidemment l'idée qu'il n'y a pas qu'un seul moule et que tout le monde n'est pas obligé de faire exactement la même chose, c'est que l'enseignement dans les INSPE soit beaucoup plus diversifié pour tenir compte du parcours de chacun. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte que l'on renforce ces enseignants dans leurs faiblesses et pas simplement dans leurs forces, de façon à ce qu'effectivement on tienne compte d'une diversité de connaissances initiales, mais qui doit être compensée par le parcours de formation à l'école qui vient là pour finalement remettre tout le monde à bon niveau. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas en un an, dans les conditions que j'ai décrites, que vous pouvez remettre des diversités de formation aussi larges que celles qui existent aujourd'hui. Voilà. Donc nos propositions, elles tournent autour, finalement, dans cette formation initiale, de cette continuité qui part en licence, qui revient en amont, en quelque sorte, et qui amène ensuite à des connaissances un peu générales. Voilà. Alors après, on a des propositions pour la formation continue, bien évidemment aussi, mais là aussi, je laisse peut-être Alain l'évoquer sur la partie formation continue et encadrement, et je dirais qu'il a commencé à aborder, finalement, aider le professeur des écoles, à la fois qui débute et ensuite dans sa carrière, à accéder à des compléments de connaissances qui viendront le renforcer dans ses méthodes pédagogiques.
Mais c'est crucial parce que si on ne traite le problème que par la formation initiale, le problème ne sera résolu que dans deux générations, hein, si je me trompe.
Voilà, nous sommes conscients de ça. Donc, on est tout à fait conscients. C'est pour ça aussi que la partie formation continue, elle est très importante dans notre rapport et d'ailleurs qui s'appliquerait aux enseignants dès demain si c'était mis en place.
Alors, juste un petit complément sur la formation initiale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Didier venait de dire. Il y a une mise en place récente d'un dispositif de pré-professionnalisation. C'est-à-dire que les INSPE vont pouvoir commencer, alors pour l'instant c'est à petite quantité, vont pouvoir commencer à accompagner des étudiants de licence vers les carrières d'enseignants. Et donc, nous espérons qu'en effet, ce serait l'occasion, à partir du moment où on va chercher, où on va flécher, où on va aider à certains étudiants à s'orienter vers des carrières d'enseignants, eh bien, de leur apporter le plus tôt possible, dès la licence, de leur commencer à leur apporter des compléments par rapport à la spécialité scientifique ou littéraire ou de sciences humaines et sociales qu'ils auront choisi en licence, et de comment à construire cette pluridisciplinarité dès la licence et pas essayer de le faire en un temps extrêmement concentré en INSPE. Sachant qu'avec ce système d'optionnel, etc., comme l'a dit très justement Didier, les étudiants vont sur la pente sur laquelle ils se sentent le plus à l'aise pour la descendre et donc dans les disciplines qu'ils connaissent le mieux. Sur la formation continue, il y a différentes questions qui se posent. Une question qui peut paraître assez triviale, mais qui est extrêmement importante, c'est que un professeur des écoles, il a une classe. Il est responsable de sa classe et il doit être devant ses élèves. Par conséquent, il ne peut pas partir en formation. Sauf si il y a un remplacement. Sauf si un professeur est de remplacement est nommé pour le remplacer pendant le temps de sa formation. Et là, on se trouve, là aussi, c'est les contraintes du système. Je ne nie pas la complexité extrême du système du ministère de l'Éducation nationale. Mais à juste titre, il a été décidé de renforcer significativement la présence des professeurs dans les petites classes, mais dans les zones prioritaires. Et il y a eu un dédoublement relativement important de classes, de façon à pouvoir réduire les inégalités qui naissent sur certains territoires. Et du coup, ça a formidablement réduit le volume d'enseignants susceptibles d'assurer des remplacements. Donc voilà un point dur, qui devrait être traité. Ça veut dire plus de moyens, et donc dans le contexte actuel, c'est peut-être délicat. Après, il y a d'autres formules sur l'enseignement en dehors du temps d'école. Ça demande évidemment du volontariat, de la disponibilité de la part des enseignants, peut-être une reconnaissance de l'effort personnel qu'ils consentiraient à suivre des enseignements en dehors de leur temps de service, en dehors du temps à l'école.
Alors, juste pour renforcer ce que dit Alain avec deux aspects. Le premier, un aspect qui est très présent. Donc, Alain vient d'expliquer une évolution court terme qui pose des problèmes de remplacement. Il y en a une autre qui pose des problèmes, c'est que chaque professeur des écoles a 18 heures de formation obligatoire par an. 18 heures de formation obligatoire. Bon, clairement, quand on regarde les autres pays, 18 heures, c'est très, 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 très peu déjà. Mais quand on rajoute à ces 18 heures de formation par an, le fait que depuis 2-3 ans, le ministère a décidé de complètement focaliser ses formations autour du français et des mathématiques, évidemment, les formations dans toutes les autres disciplines ont quasiment disparu. Donc, non seulement il y a un problème de remplacement, mais dans la formation continue qui ne demande pas de remplaçant, puisqu'elle est hors temps en présence devant les enfants, c'est 18 heures qui se font donc en général le mercredi, mais en dehors de temps devant les enfants, ces 18 heures elles-mêmes ont été complètement accaparées par des formations relativement uniformes en maths et en français. Alors, je voudrais quand même donner un exemple pour montrer que dans le passé, ça c'était pas toujours comme ça et que les choses se sont quand même dégradées encore plus fortement que ce que Alain a expliqué. Il y a quelque temps, la formation des... Alors, ça ne s'appelait pas des INSPE, ça s'appelait les IUFM à l'époque, était en 2 ans. Et l'élève stagiaire, l'élève qui est le professeur stagiaire, il n'était pas en présentiel devant des enfants en pleine responsabilité. Il allait en plus, en surnombre, dans des classes où il y avait des enseignants déjà en fonction et donc plus matures, qui accueillaient le stagiaire et en quelque sorte l'encadraient. Mais évidemment, ce stagiaire qui était en surnombre, il pouvait pendant une semaine, par exemple, remplacer un professeur, le professeur chez qui il était en stage, et ce professeur lui-même, remplacé par son stagiaire, mais quand même encadré par ce professeur, était libéré pour aller suivre des stages de formation. Le remplaçant, c'était en quelque sorte l'élève stagiaire, et il allait suivre des formations qui pouvaient durer une semaine. Tout ça a été complètement démoli, a complètement disparu lorsqu'on est passé à cette version que je vous ai expliquée de la formation des SP puis des INSP en un an très concentré avec un énorme charge de travail, y compris le fait d'avoir enseigné en présence des enfants en pleine responsabilité pendant un mi-temps. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que alors évidemment, on l'a fait pour des raisons d'économie, mais le résultat s'est révélé catastrophique parce qu'il permettait de faire respirer le système et surtout de ne pas se préoccuper au sens de remplacement parce que les remplacements étaient effectués finalement assez naturellement par des élèves stagiaires sur des périodes de temps relativement courtes et ça permettait aussi à l'élève stagiaire d'être quand même encadré et pas laissé un peu tout seul, même s'il n'est pas laissé complètement tout seul aujourd'hui. Enfin, il a quand même des enfants en pleine responsabilité la moitié du temps. Voilà. Je vous ai juste illustré par ces deux aspects le fait que on assiste quand même à une régression de la capacité de formation des enseignants, professeurs des écoles, là on parle de la formation continue, par un système qui, à force d'être contraint, devient finalement ne laisse plus respirer le système. Quoi.
Alors, il y a une évolution, oui, il y a une évolution qui est en cours avec le passage du concours au niveau de la deuxième année de master, au niveau du M2, c'est que il est prévu, mais on va voir, il y a les textes et après il y a la vraie vie, il y a la réalité. Il est prévu que les étudiants dans le master des INSP, donc dans le master de formation de professorat, dans leur M2, fassent une partie de leur temps en responsabilité. Ça veut dire que dans un premier temps, ils feront des stages en observation, et puis dans la deuxième partie, donc dans le M2, ils pourront faire des stages en responsabilité. Mais comme l'a dit justement Didier, tous les professeurs des écoles ne passent pas forcément par ce master-là. Et donc restera la question de la formation et des stages en responsabilité, en nombre suffisant, pour préparer les futurs professeurs venant de différents horizons à leur métier. Et donc là, c'est un point d'observation. Mais en ce qui concerne les INSP, là, le passage en deux années, le concours après le M2, devrait permettre revenir un peu à ces pratiques qui avaient un peu disparu, mais avec des quantités peut-être plus limitées d'étudiants concernés, sur des stages en responsabilité. Voilà, donc c'est pas encore en place, ça va se mettre en place et nous pouvons former le vœu que ça participe à cette amélioration du système et à cette fluidification du système qui permet à des enseignants titulaires de partir, eux, en formation.
Alors si souhaitons que cette réforme se fasse, si ce n'était pas le cas, quelles sont les autres ressources qui sont mobilisables au service de ces objectifs? Je pense par exemple, on parlait à une époque des fameux ASTEP, des accompagnements,
oui.
Des accompagnements en sciences et technologies à l'école primaire.
Alors là, je voulais évoquer cette partie-là qui est plus les prix. Qu'est-ce qu'on leur offre comme formation et comme accompagnement à ces professeurs des écoles une fois qu'ils sont en situation d'enseigner? Alors là, il faut évidemment citer l'effort qui a été fait par la Fondation La Main à la Pâte, hein, qui justement est à l'origine d'un certain nombre de ces initiatives dont vous parlez. Alors, ce n'est plus les ASTEP, hein, c'est les accompagnements scientifiques dans les écoles primaires. Mais Cette fondation La Main à la Pâte a mis en place ce qu'on a appelé les maisons pour la science. Et les maisons pour la science, il y en a 12 maintenant, se sont développées dans les régions, donc dans les territoires, un peu partout. Et ces maisons pour la science, qu'est-ce qu'elles font? Elles offrent finalement à ces professeurs des écoles des formations avec accès à la compétence et à la connaissance universitaire. Ces maisons pour la science sont situées au sein des universités. Et elle offre des formations pour les professeurs des écoles et les professeurs de collège qui sont encadrés par des universitaires. Alors, un des aspects, ce sont ces anciens ASTEP, donc ces étudiants, qui sont en général des étudiants en thèse ou en master, qui viennent, passent dans les classes des professeurs des écoles, accompagner autour des problématiques de sciences et de technologie l'enseignement de ces professeurs des écoles. Donc c'est un des aspects. L'autre aspect étant offrir des formations où le professeur des écoles peut, dans une formation qui est un ou deux jours ou qui plus peut être un parcours de formation, c'est une série de formations tout au long de l'année, se renforcer à la fois non seulement en connaissances, mais aussi dans ce que disait Alain au début, c'est-à-dire en méthodologie pédagogique avec ce qu'on appelle des méthodes actives, c'est-à-dire où les enfants vont participer, des mises en situation qui correspond à une participation des enfants, et ça leur est non seulement enseigné, mais on leur apprend comment faire pour mettre leur classe, mettre les enfants qu'ils ont dans leur classe dans une position active, c'est-à-dire qu'ils participent au questionnement et à l'interrogation scientifique pour commencer à faire ce que l'on prône évidemment fortement, c'est-à-dire une véritable démarche scientifique où l'enfant lui-même se pose une question, trouve la façon dont il va pouvoir expérimenter, c'est-à-dire essayer d'observer finalement le comportement des choses pour essayer de répondre à la question, puis ensuite raisonner, c'est-à-dire sur la base de ce qu'il a observé, en tirer des conclusions, pour enfin les généraliser sous forme de connaissances, y compris par la comparaison par rapport à d'autres choses qu'il connaît, de façon à asseoir ses connaissances. Donc c'est une démarche active où l'enfant est une partie prenante du questionnement et de la démarche pédagogique est évidemment quelque chose qui est, entre guillemets, enseigné dans les formations des maisons pour la science. Donc ce que je veux dire, c'est que ça existe, et ça pourrait être encore plus général que ça ne l'est maintenant, la possibilité, avec d'ailleurs une très grande bonne volonté des enseignants universitaires de participer à cette formation, d'avoir ces professeurs des écoles qui peuvent bénéficier de ce type de formation pour évidemment répondre à la problématique qu'on a posée, c'est-à-dire comment mieux enseigner les sciences et les technologies en école primaire.
Alors que faire pour que ces maisons de la science, que leur effet soit plus vaste et
le soutien apporté plus important? Alors, ces maisons pour la science bénéficient déjà d'un soutien des rectorats, du ministère, des rectorats, puisque c'est un partenariat qui est fait entre l'université, le rectorat et la fondation La Main à la Pâte. Donc, elles sont évidemment au sein du système universitaire et bénéficient d'un partenariat avec le rectorat. Mais là encore, très souvent, on bute sur un problème de ressources. Elle ne demande pas énormément de ressources, hein. Ce n'est pas des ressources monstrueuses. Une maison pour la science fonctionne avec quelques mi-temps ou quelques temps pleins universitaires et professeurs des écoles détachés par le rectorat. Typiquement, quand je dis quelques, ça peut être deux. Une bonne maison des écoles, une bonne maison pour la science, il va lui falloir quelque chose comme trois ou quatre temps pleins équilibrés entre des gens qui sont sur le terrain, professeurs des écoles, et des gens qui sont dans le système universitaire pour mettre en place. Plus évidemment, tout un tas d'intervenants qui viennent ponctuellement renforcer ces formations. Donc, ce n'est pas des gros moyens. Et donc, le problème, c'est d'y mettre un minimum de ressources parce que c'est un pont entre le monde de l'enseignement primaire et le monde universitaire moderne. Ce sont des chercheurs, quelquefois de très haut niveau, qui viennent encadrer ces professeurs des écoles et les aider à réfléchir sur les problématiques de sciences et de technologies.
Et je crois aussi qu'il y a à explorer le filon des étudiants. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui seraient prêts, en dehors même de tout système normalisé, nommé, etc., à venir passer du temps dans les écoles. Je crois qu'il y a parmi les jeunes étudiants beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de générosité et il faut trouver le moyen de faire le lien entre les besoins que peuvent avoir des enseignants ou des écoles sur des sujets particuliers et puis les universités, les IUT, les écoles
Voilà.
de l'environ, des environs. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment creuser parce qu'encore une fois, il y a un potentiel. Nos jeunes sont généreux. Donc,
Alors,
je crois qu'il y a un potentiel à travailler.
Une fois de plus, ce que vous aviez, les ASTEP, qui est effectivement ceci, qui s'appelle maintenant les partenaires scientifiques pour la classe. Ces partenaires scientifiques pour la classe, ce sont des étudiants qui sont à différents niveaux, y compris jusqu'au niveau thèse, qui s'impliquent dans les classes. Il faudrait généraliser, comme le dit Alain, généraliser, parce que le potentiel est là, généraliser cette approche et y mettre un peu de moyens pour la structurer et la faire fonctionner. Parce que c'est pas une génération spontanée. Les étudiants existent, ils sont de bonne volonté, mais évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de structuration pour qu'ils trouvent dans quelle classe aller, travailler avec quel professeur pendant un an où ils vont l'accompagner, que ce soit reconnu aussi, ça c'est un point important, que ce soit reconnu dans leurs études. C'est-à-dire que cet effort qu'ils font d'aller dans les classes soit effectivement, et on le demande par exemple en thèse, on demande maintenant pour les étudiants en thèse d'avoir une partie qui est faite en dehors du travail de thèse purement dit, et de quelque part participer à une action de formation, autre chose comme ça. Mais toutes les écoles doctorales ne reconnaissent pas ces partenaires scientifiques pour la classe, ce qu'ils font dans ce cadre-là comme étant partie prenante de leur formation scientifique de thèse. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que le potentiel existe, les étudiants sont là, les besoins existent, c'est l'ensemble des professeurs des écoles dans leur classe. Il faut permettre à ce système de se, disons, de prendre un peu plus d'ampleur en le structurant et en l'aidant, en ayant un parcours contrôlé et appuyé par la structure rectorat d'un côté et universitaire de l'autre.
Oui, tout à fait, plateforme, que sais-je. Enfin, il y a des moyens de réunir les besoins exprimés par les écoles, enfin de faire le pont entre les besoins exprimés par des écoles et puis des potentiels d'étudiants. Et aujourd'hui, on a des moyens de le faire et puis aussi de le faire suivre, de l'encadrer. Pourquoi pas quelques crédits ICTS, comme l'on dit, dans l'enseignement supérieur, pour des actions significatives réalisées au cours de licence, par exemple, dans des écoles primaires.
Alors, pour la réalisation de ce rapport, vous l'avez dit, vous avez fait une enquête de terrain auprès des différents acteurs de l'enseignement primaire. Vous avez dû échanger sur les solutions possibles. Au cours de ce dialogue, quel est le ressenti que vous avez perçu? Est-ce que le problème est-ce que le diagnostic est partagé? Les solutions proposées suscitent-elles déjà de l'appétence? Enfin, bref, est-ce que c'est mûr?
Oui, on a ressenti une très forte demande. Hein, nos interlocuteurs, que ce soit ceux qui sont sur le terrain ou les inspecteurs à différents niveaux que nous avons rencontrés, il est clair qu'il y a une très forte demande et une quelque part, on a ressenti une certaine frustration de l'évolution actuelle. Et ce que nous proposons, c'est pas tombé du ciel. C'est tombé en particulier de discussions que nous avons eues avec des acteurs qui nous ont proposé eux-mêmes les solutions que nous poussons. Voilà, donc il n'y a aucun doute. Peut-être, je vois que le temps passe et que vous vouliez aborder quand même un sujet, je pense qu'on a, les gens intéressés peuvent trouver le rapport, ils sont sur le site de l'Académie des technologies et de l'Académie des sciences, ils sont très facilement téléchargeables, mais peut-être il faudrait revenir à la problématique que vous aviez abordée en introduction, c'est-à-dire finalement, pourquoi faire tout ça? À quoi ça sert de former des enfants en sciences? Voilà, je pense que c'est un sujet qui est quand même, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour le traiter, mais il faut en dire quelques mots, parce que je peux me lancer, mais si vous voulez, le but, ce n'est pas de les former en sciences pour en faire des scientifiques. C'est que nous considérons que tout citoyen, quel que soit ce qu'il aura à faire, y compris des citoyens qui auront décidé de faire des études qui n'ont rien à voir avec les études scientifiques, en tant que citoyen, il se doit d'avoir une compréhension de la démarche scientifique et de ce qu'est la science à un niveau qui lui permet d'aborder les grandes problématiques auxquelles il est confronté. Et si vous reprenez, je reprends les mots de votre introduction, l'énergie, le changement climatique, la santé. On vient de vivre, on vit encore une période incroyablement bouleversante d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire de l'organisation de la société, qui est liée à un problème de maladie dont on, finalement on ne sait pas très bien la contrôler et quoi faire, hein, avec bon, l'idée qu'il faut donc faire un vaccin, mettre des moyens en place, etc. Bon, tout ça pour dire que le citoyen, quel qu'il soit, et pas seulement l'ingénieur ou le scientifique, il est confronté tout au long de sa vie à des problématiques politiques et sociétales dont une partie relève de la compréhension de la science et dont beaucoup relèvent de la démarche scientifique. On a beaucoup parlé de fake news, on parle beaucoup de fake news. La démarche scientifique, c'est justement la base même du développement de ce qu'on appelle l'esprit critique, c'est-à-dire d'être capable par soi-même de juger ce qui est vrai ou pas vrai, de faire ce que l'on appelle très très souvent la différence entre croyance et connaissance. Hein, il y a des enfants qui croient des choses, il y a des adultes qui croient des choses, et puis il y a des choses qui sont vraies ou fausses parce qu'on les connaît, et puis il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ils m'ont aussi montré, cette histoire de virus a montré aussi que les scientifiques ne connaissaient pas tout et qu'il faut accepter que la science ne connaisse pas tout, n'est pas une réponse à tout, mais il faut aussi comprendre que la science, c'est aussi progresser dans la connaissance et donc d'être, parce qu'on ne le connaît pas, un jour, arriver à le connaître le lendemain. Voilà, donc je voulais redire ça parce qu'on ne forme pas les scientifiques pour des enfants en sciences uniquement pour faire des scientifiques. On les forme pour qu'en tant que citoyens, ils aient une démarche de citoyens responsables, quels que soient les métiers qu'ils feront.
Et alors, ce que dit Didier est fondamental, et effectivement, c'est quelque chose qui est pris en compte tout le long du parcours, du socle commun, donc jusqu'au collège, etc. Mais, pourquoi nous insistons sur l'école primaire particulièrement? Parce que c'est l'âge où les jeunes sont à la découverte du monde. Ce sont de véritables éponges. Ils observent, ils captent, ils retiennent, ils mémorisent énormément de choses. Et or, ce que nous regretterions, c'est que les informations et les connaissances concernant les sciences et les technologies leur arrivent par d'autres canaux, c'est-à-dire des canaux non contrôlés, non contrôlables, des discussions de famille avec où on affirme sans trop savoir ce qu'a dit un voisin, etc. Et qu'il n'y ait pas un discours construit, étayé, qui leur soit délivré dès leur plus jeune âge. Évidemment, un discours adapté à leur niveau, à leur âge, mais qu'ils entendent, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'investigation, qu'est-ce que c'est que essais erreurs, qu'ils commencent à avoir des raisonnements, construire des raisonnements. Et ça, l'école est là véritablement pour ça. On ne peut pas laisser l'extrascolaire remplir cette mission.
Toute seule, en tout cas, car chacun peut quand même se charger de l'instruction et de l'éducation de ses enfants. Il y a un très beau passage que je voudrais lire dans l'introduction du rapport, si vous me le permettez. Il peut faire presque office de conclusion, tant il est beau, il revient à ce sujet de l'enfance. Il est un petit peu long, mais je vais prendre mon élan. Chacun sait que très tôt, la plupart des enfants, sinon tous, filles et garçons, regardent autour d'eux les phénomènes de la nature et les questionnent. La succession des jours et des nuits, le ciel étoilé, les jeux de la lumière et des couleurs, la diversité des plantes et la reproduction des animaux, le fonctionnement d'un moteur ou d'une pile électrique, les interactions avec le smartphone. La liste est longue de ces moments où le regard de l'enfant manifeste soudain une extrême attention, où ses yeux brillent et des questions jaillissent. Chaque parent connaît cette phase d'inlassable « pourquoi ?». Pour peu que ce questionnement recueille l'intérêt des adultes qui entourent l'enfant, trouve un écho dans des images ou des mots que l'enfant rencontre, alors le processus de la curiosité s'enclenche, se lie à l'enrichissement du langage et se développe naturellement. Autant dire que c'est effectivement sous l'angle d'un processus qu'il faut imaginer la réforme que vous proposez et que les réactions en chaîne à ce processus enclenché pourraient être formidables, à la fois pour les sciences, car après tout, si certains choisissent de devenir scientifiques par la suite, on ne s'en plaindra pas, mais aussi pour la formation des citoyens, et peut-être au-delà même, dans le climat général, car vos propositions sont formulées dans un moment où le rapport à la science est quand même un petit peu perturbé. On sent que l'idée de progrès et de progrès scientifique est devenue plus problématique, et que la science qui était vue auparavant comme une sorte de fée qui allait résoudre tous les problèmes, est de plus en plus vue comme, comme le problème lui-même. Autant dire que, d'une certaine façon, l'heure est grave.
Nous sommes d'accord.
Et nous sommes d'accord. Et les premières représentations qui viennent aux enfants sont les représentations qu'ils vont garder le plus longtemps. Donc il faut qu'ils aient de la science et des technologies, des représentations étayées. Et c'est un peu l'objet de nos préconisations.
Et de surcroît, leur vie sera plus belle, car avec une méthode scientifique pour observer le monde, la vie est plus belle. Je ne peux donc qu'inciter nos auditeurs, et notamment les parents, à se procurer le rapport, qui est donc disponible sur le site de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies, de façon à s'emparer, eux aussi, de ce problème, non pas pour donner de mauvaises réponses, mais prendre conscience du problème, peut-être en parler avec les professeurs des écoles, prendre des initiatives s'ils en ont la possibilité, car un problème collectif doit être saisi collectivement, et après tout, n'importe quel artisan ou parent qui a des connaissances scientifiques peut-être contribuer à trouver des solutions locales avant que cette belle réforme soit mise en œuvre, ce que nous lui souhaitons. Monsieur, merci, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accueillis. Thank you.